auraient amené leur tradition à Jérusalem. Les Lévites ont gardé ces traditions autour des temples. Et alors, une fois Samarie disparue, sous le coup des Assyriens, eh bien, on aurait amené à Jérusalem donc ces traditions. Et les traditions de Jérusalem, la plus ancienne, ce serait amalgamé. Aux traditions de Jérusalem, ce serait amalgamé les traditions venant du Nord pour faire J.E. Yavis et Eloïs. Voilà la manière dont Wellhausen se représentait les choses. Et puis, il y aurait, vous voyez, 620, 622, 620, époque de Josias, un siècle plus tard, réforme de Josias. Mais ceci par parenthèse, vous savez que la réforme de Josias a été un coup dur, pas la réforme, mais le fait que quelques années après, Josias meurt. Les Égyptiens allaient attaquer les Assyriens et dans le combat, Josias meurt. Alors, grosse question dans le peuple d'Israël, est-ce que ce n'est pas une punition de Dieu pour avoir fait une réforme? Donc c'est resté longtemps comme un gros problème. Et alors, les textes, surtout chapitres 12 à 26 du Deutéronome, le texte de ce qu'on appelle le code deutéronomiste, les lois, le texte de loi, ce texte s'est ajouté à ce moment-là. Les textes légaux, en quelque sorte. Il y avait déjà des textes légaux dans le J et E, mais on aurait ajouté un gros bloc tout à fait nouveau et plus récent qui serait le Deutéronome. Alors nous avons maintenant J.E.T. Et avant l'exil, c'est ce qu'on aurait eu. Est-ce que J.E.T. formait un texte unique? Ça, on ne sait pas le dire. Est-ce que c'était des sources juxtaposées? C'est possible. Voilà comment Wellhausen voit les choses. Et alors, puisque les lois sacerdotales, les lois sur le temple, les lois sur les sacrifices, les lois sur les fêtes, les lois sur le sabbat, eh bien, puisqu'elles ont l'air, les prophètes n'en parlant pas, puisqu'elles ont l'air d'être plus récentes, est-ce que ce n'est pas la restauration, les lois qui viennent de la restauration du temple après l'exil, 520? Et voilà comment donc on va se représenter les choses. J.E., Yavis, Eloïs, et puis un document que certains vont appeler Jéhoviste, puis D, Deutéronome, puis tout ça se met ensemble, et puis on ajoute quoi? Et on ajoute des lois sacerdotales et une histoire sacerdotale. L'histoire des rois, mais vue du point de vue des prêtres, du point de vue du sanctuaire lui-même, et de sa gestion. Et alors, on aurait eu, mais cette fois-ci, après l'exil seulement, on aurait eu, plus ou moins, le Pentateuque tel que nous l'avons maintenant, reconstitué par ou bien un scribe génial, ou bien un consortium de scribes d'une école. Voilà donc ce à quoi on en a. Et, c'est noté en bas de la page 5, Wellhausen essaie de faire le point entre l'histoire des documents et l'histoire du peuple. Il ne faut pas les coller ensemble, les choses ne se sont pas passées nécessairement comme nous le voyons. Mais Wellhausen et l'histoire de la religion d'Israël, vous voyez, il vous met monarchie, pluralité, pluralité de dieux, pluralité de tribus, Et, au fond, ce sont des textes beaucoup plus spontanés, qui nous racontent des histoires, des petites histoires, des anecdotes souvent. Histoires au sujet d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Et puis D viendrait de la réforme de Josias, avec centralisation du culte, ça on le sait, ça c'est quelque chose d'exact. Et alors on serait passé de, par exemple, d'une célébration des fêtes, comme les Cananéens qui étaient encore tout à fait agraires, on serait passé à une historicisation de ces fêtes. non plus seulement parce que c'est un, hein, au départ, c'est la récolte, c'est la moisson, la récolte des fruits, hein, comme les Juifs sont en train de faire pour le moment le Soukhot, hein, la récolte des fruits de la terre. Non. Hein? Mais on s'est passé à un événement historique qui reprend cela et qui le distingue des Cananéens. Et puis, viendrait après l'exil, où nous aurions une ritualisation du culte. Mais d'après Wellhausen, la ritualisation du culte était en quelque sorte un déclin. Une fois qu'on arrive au rite, répété, 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 d'après lui, ça déclinait. Il avait encore un peu, lui, le schéma de Hegel dans sa tête. Alors, c'est pas fini. Nous avons un certain nombre de personnages qui ont aménagé la théorie documentaire telle que vous venez de voir et telle qu'elle se trouve hein, justement dans le petit schéma de la page 5. Vous avez appeler éthique. De nouveau littéraire, mais du point de vue de la tradition ou des traditions. Donc c'est littéraire dans l'histoire, cette fois-ci, typiquement dans l'histoire. Et ça va donner, c'est justement M. Bunkel, Hermann Bunkel, qui a beaucoup étudié les psaumes notamment. Et justement, pourquoi il a étudié les psaumes? Pour voir si dans les psaumes, on pouvait percevoir une époque pour situer, dater de façon précise les psaumes à partir des fêtes qui étaient célébrées dans le temple. Hermann Bunkel. Et c'est ce qu'on peut appeler l'inventeur de la tradition du Schiste, c'est-à-dire l'histoire des traditions. Les traditions ont une histoire. Et quand vous voyez par exemple un texte qui, comme le psaume 29, parle du Dieu dans l'orage, hein, du Dieu comme un orage, pourquoi et comment a-t-on commencé à parler de Dieu sous le terme d'un orage? On en parle dans Sinaï, hein, Sinaï, de la. La venue de Dieu au chapitre 19e de l'Exode hein, est décrite comme un gros orage. Alors, voilà une impression qui a secoué le peuple d'Israël, ou en tout cas hein, les tribus qui se trouvaient là au désert, qui a secoué ce peuple, et on s'est rendu compte que pour exprimer cette grandeur de Dieu, un orage, c'est une bonne expression. Et alors, vous allez trouver petit à petit, à travers l'histoire, des schémas qui vont se reproduire. Quand on parle d'une venue de Dieu, on va parler d'éclairs, on va parler de tonnerre, on va parler de voix puissante. Eh bien, ça, ça s'appelle hein, une forme littéraire, forme de Schiste. J'aurais dû inverser les deux termes. C'est d'abord forme de Schiste. On va étudier à partir d'une forme particulière, une parabole, c'est une forme, un récit, hein, comment se situe, comment s'explicite le récit. On va parler d'une analyse des formes littéraires pour arriver à l'histoire des traditions. C'est une même tradition, une même expérience de Dieu qui va être reprise. Et plus on reprend cette expérience de Dieu, plus on reprend les formes des genres littéraires que l'on a utilisées une première fois, parce qu'elles exprimaient bien la, hein, ce qu'on voulait faire percevoir, c'est-à-dire une apparition de Dieu. Et voilà comment on va petit à petit fignolée, aménagée, la théorie documentaire de Julius Wellhausen. Gunkel fait partie de ce qu'on appelait l'histoire des religions, hein, le groupe qui étudiait l'école de l'histoire des religions, et qui essaie, vous voyez, de voir derrière une forme littéraire, une expression liturgique, par exemple, qui essaie de voir, tiens, quel est ce qu'il appelle le Sitz im Leben, la situation en vie, situation vitale, à partir de laquelle telle forme, telle expression s'est créée. La parole et le pain. Voilà le terme qui décrit notre liturgie. Liturgie de la parole, liturgie eucharistique. Elles se sont mises ensemble. À partir de quelle expérience se sont-elles mises ensemble? C'est ce qu'on étudie, par exemple, dans le cours sur la liturgie. Quelle est l'histoire de l'eucharistique? Quelle est l'histoire de l'Eucharistie à travers les formes littéraires et liturgiques que petit à petit elle a prises. La Genèse est une collection d'histoires populaires, des sagen, des sagas, histoires populaires que l'on appelle souvent des légendes. Légende ne veut pas nécessairement dire que que ce sont des fables, que ça a été tout imaginé, mais des légendes. C'est une histoire qui a pris une forme déterminée petit à petit, qui était différente, bien sûr, de ce qui avait été vécu au départ. Les auteurs des sources sont avant tout des collectionneurs et des éditeurs de récits populaires. Avec le temps, les histoires individuelles se sont agglutinées autour d'un ou deux personnages pour former des cycles d'histoire, un Sagenkränze, et la Formgeschichte, l'histoire des formes, opère sur les unités textuelles élémentaires. Elle entend examiner leur forme littéraire, déterminer leur genre littéraire, gâteau, et la situation collective, concrète, dans laquelle ce genre littéraire a pris corps. Vous avez tout l'essentiel de Gunkel dans cette petite phrase. Alors, il faut ajouter une école. Une école allemande aussi, dans la ligne de Gunkel, toujours de l'histoire des religions. Et vous avez là Albrecht Alt, vous avez Martin Noth et Gerhard von Rath. Tout ça font partie de l'école, hein, le professeur. Hein. Et ceci est intéressant, Gerhard von Rath a fait lui une théologie de l'Ancien Testament. Une théologie que je vous recommande en deux gros volumes, qui sont fort intéressants. Quel est l'avantage? Eh bien, vous voyez bien que si la critique littéraire, la critique des traditions, a essayé de se mettre au pas, je dirais, de l'histoire, c'est parce qu'on se rend bien compte que derrière ces textes, il y a une histoire, et une histoire qui petit à petit a formé une tradition. Il y a des courants dans cette histoire. Et que si on veut trouver quel est le message de cette histoire, c'est-à-dire la théologie, il faut voir le rapport qu'il y a entre les deux, entre l'histoire, disons réelle, concrète, et l'histoire du salut. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait avec cette histoire des hommes? Et comment les auteurs, petit à petit, se sont rendus compte de ce que Dieu faisait dans leur propre expérience? Donc c'est un travail, au fond, de perception du texte en profondeur. Plus seulement, comme quelque chose qui se déroule devant vous, une sorte d'histoire à plat, mais comme une histoire qui vous invite à découvrir que ce texte vous dit encore quelque chose aujourd'hui. Ce n'est plus seulement un miroir du passé. C'est un texte qui vit, et qui vit à travers la manière même dont il a été composé. Nous sommes passés de Moïse à un homme, et d'un authenticité mosaïque, à une mosaïque de fait. Mais une mosaïque, c'est un jeu de petites pierres. Mais ce jeu de petites pierres signifie quelque chose. Il y a un dessin qui s'exprime. Eh bien, c'est tout ce travail-là qui a été fait. Et nous arrivons là, vers les 1935, je crois que c'est à peu près la date de la première édition de la théologie de l'Ancien Testament par Gerhard von Rath, nous arrivons, hein, à ce moment-là, tout à fait, à nos époques. Et cette époque est au fond un véritable approfondissement, une véritable découverte que ce peuple d'Israël qui a vécu nous transmet aujourd'hui une réalité profonde qui signifie pourquoi il existe. Donc vous avez Albrecht Haupt, derrière les récits de la Genèse, il découvre, lui, d'abord les récits de nomades. Ce sont des récits, des petites histoires. Et ces histoires qui étaient arrivées à un clan ou à un autre clan. Et petit à petit, on les a agglomérés autour de quelques personnages. Abraham, Jacques, Jacob, Joseph. Et puis, comme chaque fois que un nouveau clan ou de nouvelles familles adhéraient à cette tribu, ben on racontait cette histoire. Et cette histoire devenait commune. Et donc, de ces personnages qui étaient là, on en a fait aussi une génération. Abraham, père d'Isaac, père de Jacob, un père de 12 fils. Et que ces traditions orales, sont des traditions orales, des traditions qui finalement ont donné des textes, plus que des filiations véritables. Est-ce qu'en fait, il y a eu un homme qui a eu 12 tribus qui s'appelait Jacob? Alors que les 12 tribus ne commencent à exister comme confédération qu'à l'époque de David. Commencer. Et on vous dit déjà qu'elles étaient dans le désert. Et c'est toujours ce phénomène. Puisque c'est à partir des tribus du désert, si tant est qu'elles ont eu une consistance déjà à ce moment-là, il n'y en a d'ailleurs que 3 ou 4 qui éventuellement auraient été en Égypte, mais si déjà ce sont ces premières tribus qui ont fini par donner David, eh bien tout se trouvait déjà dans le germe. Les 12 tribus étaient déjà là. Mais comment ça fonctionne petit à petit? Albrecht Haupt essaie de remonter jusqu'aux tribus du désert initial. Et on passe de Dieu, qui est le Dieu d'un tel, de M. Abraham, de M. Isaac, de M. Jacob, on passe de ce Dieu d'un tel à au Dieu unique. Mais il a fallu des centaines d'années pour y arriver. Martin Nord, lui, dit, eh bien, tout s'est agglutiné autour d'une histoire. L'histoire d'un peuple, et une histoire unifiée d'un peuple. Autour de la sortie d'Égypte, de l'entrée en Canaan, des tribus patriarcales, d'un séjour au désert, et de la révélation du Sinaï. Y a-t-il eu un Sinaï? Ou bien, est-ce que c'est l'expérience que l'on avait d'une présence de Dieu dans le temple de Jérusalem qui a été reportée tout à fait au départ? Si c'est à Jérusalem, maintenant, à l'époque des rois, que l'on fête Dieu dans le temple, quand on était une petite tribu dans le désert, est-ce que c'était pas déjà ça? C'était déjà le germe. Alors vous voyez, on voit comment petit à petit, dans la tête de cette personne qui essayait de récolter l'expérience d'Israël, c'était généralement les scribes et les prêtres autour des petits sanctuaires, comment petit à petit on découvre à l'intérieur de ce qu'on a vécu une histoire. Gerhard von Rath, alors, le troisième, lui, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'architecte de la forme finale de la théorie documentaire, et nous arrivons, avec ces bunker, alt, note et fondat, nous arrivons à la page 6, à la fin de la page 6 et au début de la page 7, à une sorte d'histoire, qui était la théorie documentaire classique que nous avons appris, que vous retrouvez encore dans tous les livres. Nous verrons après, à partir de, pas la fois prochaine, mais la fois après, puisque le 15, je ne donnerai pas cours, mais bien le 23, le 23, je crois. Eh bien, le J, le document J, qui daterait de vers 930, l'époque de Salomon, qui irait de Genèse 2 jusqu'à Josué 24, donc c'est toute une longue histoire, dont les textes clés seraient Genèse 12, c'est-à-dire l'Alliance, et Exode 19, le Sinaï, qui aurait comme théologie la justification de l'empire davidique et salomonien, et comme thèse, Dieu accompagne l'homme malgré ses faiblesses et accomplit ses promesses. Donc le schème, promesse, accomplissement de Dieu. Eux, maintenant, Éloïste, qui daterait de vers 850-750, dans le royaume du Nord, Samarie, en Samarie, avant que Samarie ne soit détruite par les Assyriens, qui irait de Genèse 15, semble-t-il, jusqu'on ne sait pas très bien où, parce qu'elle se prétend mariée à l'autre, dont le texte clé serait Genèse 20-22, l'histoire de Jacob comme fondateur du peuple. La théologie, c'est celle de la crainte de Dieu, qui insiste sur le comportement éthique découlant de cette crainte et qui est proche du milieu prophétique. Effectivement, le prophétisme a commencé dans le Nord, en Samarie. Élie et Élisée sont en quelque sorte des prototypes. Le document T, qui daterait, vous voyez, c'est toujours ce qui est conservé, de 622, la réforme de Josias, origine peut-être dans le Nord, puis amené par des réfugiés à la cour de Jérusalem, qui irait de Deutéronome 5 jusqu'à Deutéronome 30, donc l'ensemble pratiquement du livre du Deutéronome tel que nous l'avons aujourd'hui, dont le texte clé serait « Écoute Israël, Seigneur ton Dieu, le Seigneur l'unique, tu aimeras », vous connaissez bien, chapitre 6 du Deutéronome, et dont la théologie serait l'Alliance. Donc le thème de l'Alliance aurait été serait surgi des prophètes et aurait été élaboré précisément à cette époque de la réforme de Josias. Alliance, obéissance à la loi et vénération exclusive du Seigneur. Donc monothéisme de fait. Et finalement, après l'exil, vers 550, de Genèse 1 à Deutéronome 34, une sorte de relecture de l'ensemble, dont le texte clé serait le premier chapitre de la Genèse, en frontispice, et Genèse 17, qui est l'alliance avec Abraham, et puis Exode 6, l'alliance avec Moïse, et la vocation, deuxième vocation de Moïse, la théologie, souveraineté et sainteté du Seigneur, importance des institutions et de la médiation sacerdotale. Voilà un petit peu où nous en étions vers les environs de 1960-1970. Et vous trouvez encore cela dans pratiquement toutes les introductions à l'Ancien Testament qui ont été décrites avant cela. Vous avez le texte, le schéma qui correspond à ce texte, vous l'avez au début de la page 7, page qui nous a été donnée aujourd'hui, et nous verrons à partir de la fois prochaine, donc dans 15 jours, comment ce schème va encore être déconstruit. Nous allons voir aujourd'hui, d'abord revoir un peu ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est le tableau de gauche, et puis nous verrons où en est maintenant le chantier du Pentateuch, ce qu'on va remplir le tableau de droite. Bon, nous avons vu jusqu'ici trois à propos de la formation ou de la genèse du Pentateuque. Nous nous sommes posé la question de savoir si effectivement le Pentateuque était l'œuvre de Moïse, d'un certain Moïse dont on parle dans le livre de la Bible. Il n'est certainement pas l'œuvre du Moïse que nous imaginons quand nous lisons le livre. Il faut toujours distinguer ce que le livre dit et ce que nous imaginons quand nous le lisons. Ce n'est pas toujours exactement la même chose. Mais en tout cas, nous avons vu que le Pentateuque était une mosaïque de traditions qui ont été recueillies à des moments divers, puis mises bout à bout et recomposées dans une sorte d'unité qui comprend les cinq livres que nous avons aujourd'hui. Disons en gros, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Une mosaïque de textes qui représentent des traditions différentes, basées sur des récits de différentes provenances également, et amalgamées dans une histoire de salut après l'exil. Donc il y a tout un travail de genèse intérieure qui a abouti à cette littérature que nous connaissons aujourd'hui. Et quand nous lisons bien cette littérature, nous voyons qu'elle nous dit beaucoup de choses sur elle-même et sur sa formation. Mais il faut être très attentif aux mots même qui sont utilisés et aux manières de nous inviter à lire le texte. Donc on pouvait se représenter la Genèse, le texte, d'une manière assez schématique, et jusqu'à 1960 environ, c'est ce que vous trouvez dans la plupart des livres. On vous dit, voilà l'état de la question vers 1960, et vous avez là ce texte à la page 7, ce petit schéma que j'ai repris simplement, vous l'avez à la page 7, et d'après les théories que nous avons vues de Dewett, de Julius Wellhausen surtout, qui essayait de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le texte pour que les textes racontent les choses comme ils le racontent. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il faut dire qu'il y a une histoire derrière, une histoire qui a été véhiculée par des mémoires, et que ces mémoires ont trouvé des formes particulières, formes Geschichte, histoire des formes particulières pour dire une expérience. Et puis, ils se sont transmis à travers les mêmes formes, ils se sont transmis une réalité, un message. C'est ce qu'on va appeler la tradition, l'histoire de la tradition. Et puis finalement, on se pose la question de savoir comment est-on arrivé à une telle rédaction de l'ensemble, à mettre des choses comme cela bout à bout. C'est ce qu'on appelle alors la Redaktionsgeschichte, voyez bien tous ces mots sont en allemand, parce que ceux qui se sont penchés sur le texte sont surtout des Allemands, depuis la fin du 19e siècle jusque vers les années 40 à peu près. Et donc tout cela c'était toujours dans le cadre de la réflexion sur l'histoire des religions. Comment les différentes religions actuelles du monde sont-elles nées? Comment l'homme a-t-il pu découvrir d'une manière ou d'une autre, dans telle région ou dans telle autre, une présence de Dieu à travers ce qu'il vit? Alors, vous avez le modèle, ou la théorie documentaire classique. Il y a eu au départ des traditions orales. Vous voyez qu'on reste très dans le vague, parce qu'on ne peut pas toujours les situer. Il y a eu des traditions orales. Ces traditions orales se sont exprimées à travers quelques formes particulières, des formes littéraires déjà, comme vous avez par exemple dans les psaumes. Par exemple, le dieu de l'orage, comment est-on arrivé à parler, psaume 29, comment est-on arrivé à parler de Dieu comme d'un orage? À partir de quoi? Qu'est-ce que ça peut signifier? Et pourquoi continue-t-on tout autour d'Israël à parler dans ce sens-là, encore pendant quelques centaines ou quelques mille millénaires? Donc des traditions orales. Traditions orales qui ont donné probablement déjà des documents. Documents écrits sur la pierre. Oui. Probablement des documents très brefs. Mais ces documents étaient portés, véhiculés par ce qu'on appellera par après des aèdes, c'est-à-dire des chanteurs qui connaissaient l'histoire et qui les racontaient. Bon, alors, on pouvait se représenter les choses comme ceci. Il y a un premier document que l'on appelle J, donc première année de première lettre de Yahviste, en allemand en tout cas, nous écrivons plutôt en Y, que l'on datait de l'époque de Salomon, vers 930, donc 10e siècle avant Jésus-Christ, et qui aurait raconté une histoire d'Israël, à partir du début de la Genèse jusqu'à quelques petits points. Peut-être la fin du livre des Nombres. Et puis, comme il y avait, nous avons vu ça dans la tradition, d'autres textes où l'on parlait de Dieu non plus comme le tétragramme, Yahviste, mais comme Elohim. Donc on a dit qu'il y avait un autre document, vraisemblablement, document ou tradition orale, ça n'est pas tout à fait sûr. On ne sait pas si le « et » a existé de manière particulière et indépendante. On ne sait pas. Mais vers le 9e siècle, suppose-t-on, toujours des suppositions, eh bien ce document, qui serait du 9e siècle, serait arrivé petit à petit à Jérusalem. Mais viendrait du nord, celui-là. Donc celui-ci viendrait plutôt du sud, de Jérusalem, tandis que celui-ci viendrait, l'Éloïs, viendrait plutôt du nord, de la Samarie, et à un certain moment, peut-être, tout ça reste hypothétique, ils se seraient mis ensemble, ces deux traditions. On suppose que c'est au moment où Samarie étant détruite par les Assyriens, 722, ou 721, Samarie, la chute de Samarie, et eh bien, ceux du Nord, les prêtres du Nord, notamment ceux qui gardaient les légendes, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire, seraient venus vers le Sud. Mais ce sont évidemment des suppositions fondées sur des textes, bien entendu, mais ça reste des hypothèses. Et on aurait eu, peut-être, c'est pour ça que je ne l'ai pas entouré, celui-là, peut-être un document vers les années 720, quelque chose comme ça, 720-700, un document qui aurait groupé déjà deux traditions. Donc, on suppose que la thèse ou l'idéologie de ce J, c'était de mettre en évidence, eh bien quoi, l'Empire de David, tiens, l'Empire de David, Salomon, et son importance. Dieu est avec David. Ouais. Et c'est un peu la thèse de ce document. Et puisqu'il est avec David, il l'est depuis le début, et donc vous avez le schéma dans J, le schéma de promesse, Dieu promet, et il accomplit ce qu'il promet. Nous reverrons tout cela après, bien entendu. Et alors, c'est surtout le thème de la crainte de Dieu, du Dieu véritable. Et vous savez que dans le Nord, en Samarie, il y a eu presque toujours des tentations de syncrétisme entre la religion d'Israël, du Dieu unique, en tout cas du Dieu unique pour Israël, avec toutes sortes de Baal, de maîtres du pays, Baal voulant dire maître, qui avaient aussi leur importance, semble-t-il. Vous avez encore cette expression qui revient dans le psaume, le Dieu des dieux. Donc c'est que ces dieux, au pluriel, ont aussi une existence. Mais il y en a un qui est plus important, c'est le Dieu d'Israël. C'est toujours le nôtre, c'est le bon. Alors, vous avez donc ceci jusqu'au 8e siècle. Alors, au 7e siècle, réforme de Josias, 622, serait né, on raconte dans le livre des rois, au deuxième livre des rois, chapitre 23, on raconte la trouvaille, alors qu'on faisait des améliorations, des aménagements, en tout cas au temple de Jérusalem, on retrouve un document dit ancien, on le retrouve. et on trouve une loi. Bon, malheur, cette loi qui était ancienne et qui n'a pas été observée pendant des années. Notamment, le fait de l'unité de culte. Il y avait des petits temples un peu partout, des temples au Dieu d'Israël, bien entendu, au Dieu unique, on veut bien. Il y avait différents temples. Mais pour simplifier les choses, pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu, s'il vous plaît, Jérusalem. Et donc Josias, réformateur important, Josias, va supprimer tous les temples qui se trouvaient un peu partout dans le territoire. Il va les supprimer, mais il met au chômage tous les prêtres de ces temples. Hein. Alors on va les récupérer à Jérusalem, mais comme des prêtres secondaires, des lévites. Mais ils vont quand même trouver du travail là-bas. Et on va faire des relais, semaine après semaine, pour que tout le monde ait un peu sa part. Autre conséquence, c'est que tant qu'il y avait des temples, et comme les prêtres en Israël sont d'abord et avant tout des bouchers, on allait s'approvisionner en viande, ou cela, dans les temples. Mais si on supprime ces temples, eh bien on va désacraliser la boucherie. Et donc on va en même temps mettre davantage en évidence le rôle du prêtre comme étant celui qui met en rapport le peuple avec le Seigneur. Vous voyez tous les changements qui sont supposés derrière cette transformation. C'est un petit schéma, mais ce schéma demande des bouleversements extraordinaires dans la manière de vivre des gens. Alors, par ailleurs, à côté de ce document qui ressort tout d'un coup, on ne sait pas très bien d'où il vient, probablement qu'il a été, bien sûr, composé à l'époque de Josias, mais comme on ne peut pas innover, nous verrons le cas tout à l'heure, comme on ne peut pas innover, ben on dit qu'on l'a trouvé. C'est un vieux document, mais qui était passé en désuétude. Mais par ailleurs, justement, la classe sacerdotale, qu'ils appellent P, Heiligkeitsgeschichte, en allemand, c'est pour ça qu'on met P, le H parfois, bien sacerdotesse, Priester Codex. On appelle ça Priester Codex, d'où le P, qui devient, au fond, la règle des prêtres. Il y a deux parties dans ce texte. Une partie qui est Geschichte, qui est le petit G, qui est Geschichte, c'est-à-dire histoire. Et il y a une partie qui est, on l'écrit S ou bien parfois H, le code de sainteté, le code qui est présent dans le livre du, surtout du Lévitique. Donc nous aurions ici déjà, dans le J, nous aurions déjà un texte de loi, Exode, Sinaï, chapitre 20 à 23 de l'Exode, nous aurions un autre code, le code du Deutéronome, qui se trouve chapitre 12 à chapitre 26 du Deutéronome, et mais nous aurions un troisième code de sainteté qui se trouve, lui, dans le Lévitique. Surtout chapitre 17 à 20, 22, 23 et suivants. Difficile à circonscrire de façon précise. Et ceci daterait vraisemblablement du 6e siècle, autour de l'exil, avant, pendant, après. Donc voilà où l'on se trouvait en 1960, devant déjà cette première mosaïque. Et tout se serait retrouvé finalement dans ce Pentateuque que nous avons actuellement, et qui, comme tel, comme document de tout cela mis ensemble, daterait, lui, du 6e, 5e, voire même 4e siècle avant Jésus-Christ. époque d'une rédaction extrêmement importante, de composition des livres extrêmement importante, parce que pratiquement la Bible telle que nous la connaissons a été composée ou recomposée en tout cas, et écrite définitivement après l'exil. C'est un livre qui date, tel que nous l'avons là, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà où nous en étions. Très bien. Mais les chercheurs continuent à chercher. Sinon, ils n'ont plus à travailler. Et ils analysent le texte toujours de plus près. Certains s'intéressent davantage au récit, d'autres s'intéressent davantage au texte de droit, au texte de loi. Et alors nous avons une sorte de remise en question, dont vous avez dans les feuilles, je vous ai mis, j'ai repris les textes qu'avait donné Jean-Pierre Sonnet, et je vous ai remis dans ces feuilles, vous avez ça, aux pages 7 et 8 notamment, l'histoire telle que maintenant elle apparaît avec d'autres protagonistes, d'autres chercheurs qui ont pris soin de continuer le travail. Apparemment, c'est ici que j'ai mes pages. Donc nous sommes maintenant à la page 7. Dans ce qui est intitulé à la page 7, le chantier du Pentateuque. Tout ceci va être remis en chantier. Pourquoi pas la nécessité même de la recherche. Le questionnement était jusqu'ici, quelles sont les origines de la religion juive, l'histoire des religions, dans le cadre des religions du Proche-Orient ancien. Donc, quelles sont les origines littéraires, ou même, si on peut les trouver, les pré-littéraires. Et nous avons surtout trois auteurs qui vous sont notés, là, à la page 7. Vous avez John Van Cetus. On n'est plus tout à fait en Allemagne, on est en Amérique. Et il y a un déplacement de la recherche. Il y a cependant aussi un autre qui est encore un Allemand, Hans Heinrich Schmidt, qui va surtout s'intéresser aux yavistes. Puis vous avez Rolf Rentorf et son successeur, son disciple Erhard Blum, qui vont essayer de découvrir davantage les racines du Pentateuque. Donc vous avez ces trois personnages. Que dit John Van Cetus? Eh bien, lui, il travaille surtout sur l'histoire d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a existé? Question. Qui était-il? Question. Qu'est-ce qu'on décrit de l'histoire d'Abraham? Autre question. Est-ce que ce qu'on décrit de l'histoire d'Abraham correspond bien à l'époque où on le situe? 18e, 19e siècle avant Jésus-Christ. On parle de chameau, je ne m'attends même pas. Chameau n'existait pas en Israël à cette époque-là. 18e siècle avant Jésus-Christ, pas question. Il a été importé d'Arabie beaucoup plus tard. Précisément à une époque qui est à situer 8e, 7e siècle. Ah. Donc il y a quand même des transpositions. Quand vous écrivez une histoire d'aujourd'hui, une histoire d'autrefois, mais que vous l'écrivez aujourd'hui, vous mettez toujours des manières d'écrire ou des éléments de la réalité d'aujourd'hui, bien entendu. Nous transposons toujours un peu les choses. Regardez aussi les peintres. Les peintres qui vous mettent en image la nativité de Jésus avec les costumes de l'époque des peintres, bien entendu. Nous faisons toujours ce chemin-là. Alors lui, il travaille sur le texte et sur l'histoire d'Abraham. Et il se rend bien compte que tout ce qu'on nous raconte de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ne se situe pas en fait à la manière dont on le raconte, ne situe pas en fait au 18e siècle avant Jésus-Christ, mais ça se situe bien au 7e ou au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il faut déjà faire un certain nombre de rétablissements. Et ils nous disent, mais écoutez, ce texte, 10e, 9e, ou je ne sais pas, pour descendre tout ça, pour mettre tout ça à peu près au 6e siècle. Donc au lieu de trouver des dates aussi anciennes que l'époque de Salomon, composition à descendre au moins 3 siècles. Hey, ça pose pas mal de questions, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il en est de l'historicité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, hein? Qu'est-ce qu'il en est? Donc vous voyez que c'est pas anodin, cette recherche. Alors, M. John Van Sintox, hein, le premier, lui donne 7 critères pour parler, non pas de l'histoire ancienne, mais de l'historiographie ancienne. Comment ces gens-là, du 7e siècle, écrivaient-ils l'histoire?